Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Ce week-end a véritablement marqué le coup d'envoi de l'année Molière, car Jean-Baptiste Poquelin, de son vrai nom, serait né le 14 janvier 1962. Alors il faut parler au conditionnel, car seul son baptême atteste de sa naissance. Et il a eu lieu, ce baptême, le 15 janvier 1622, soit il y a 400 ans et 2 jours. Molière, le dramaturge français le plus connu, auteur d'une trentaine de pièces, plus célèbres les unes que les autres, on peut citer Don Juan, on peut citer Tartuffe, l'avare, le misanthrope, le bourgeois gentilhomme, les fourberies de Scapin, je m'arrête là, on pourrait en citer beaucoup plus. Molière, qui symbolise la langue française, qui porte le nom de la plus grande cérémonie du théâtre français, Molière, qui continue 400 ans après à être l'un des auteurs les plus joués au théâtre, l'un des auteurs les plus étudiés en classe. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la popularité de Molière? C'est la question que nous allons évoquer ce soir. En quoi Molière s'ancre dans notre temps? Molière et modernité vont-ils toujours de pair? Soyez les bienvenus ce soir.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, d'abord à mes côtés en studio, Christophe Maury, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur d'une biographie de Molière aux éditions Gallimard, collection Folobiographie, et l'auteur également de Marquise d'Ascensuel, comédienne de Molière aux éditions Ballant. Christophe Chouvet, face à vous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous enseignez la littérature française à l'université de Yale aux États-Unis, spécialiste de la littérature du XVIIe siècle et co-auteur du livre L'Atlas Molière aux éditions Les Arènes. Et puis en ligne avec nous depuis Dakar, Mamadou Diol, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes metteur en scène, vous allez présenter Mamadou Diol au mois d'avril avec votre compagnie qui s'appelle Kadou Yarax. Vous allez présenter Le médecin malgré lui, c'est une pièce évidemment de Molière, traduite en Wolof au théâtre du Forum au Sénégal. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. Pour commencer, j'aurais commencé avec vous, Christophe Chouvet. Vous enseignez donc la littérature dans une université américaine, l'université de Yale, on l'a dit. Comment est-ce que vous parlez de Molière? Comment est-ce que vous enseignez Molière?
Comme la naissance de notre société du divertissement moderne. Molière, c'est à la fois le show business, c'est la naissance des stars, c'est la naissance du théâtre comme un commerce, comme une industrie. Et puis, c'est aussi des débats de fond, des débats comme, par exemple, qui a le droit de juger le théâtre? Qui a le droit de donner son opinion sur ces questions? Comment est-ce qu'on se représente au théâtre? Qu'est-ce qu'on est dans la société? Toutes ces questions-là. Et puis, la limite aussi du rire. De quoi est-ce qu'on a le droit de rire? De quoi est-ce qu'on n'a pas le droit de rire? Ça, c'est des questions qui passionnent des étudiants et des étudiantes, même lorsque ils viennent sans a priori sur Molière ou le XVIIe siècle. Ça, c'est quelque chose qui prend.
C'est pas difficile pour justement vos étudiants d'aborder cette langue de Molière qui a 400 ans?
C'est moins difficile qu'on pourrait le croire. Ça, c'est un très bon exercice sur la langue. C'est une très bonne manière de travailler aussi leur français. Pour la plupart, ils apprennent en même temps le français. Et donc, c'est l'occasion de travailler cette langue. Et en réalité, c'est pas difficile si on n'a pas peur de cette difficulté. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire tout un plat, il faut plonger dans le texte. Et puis, ben voilà, on explique les mots, on explique le texte. Et très rapidement, c'est une langue qui devient relativement naturelle, transparente.
Et vous les faites jouer du Molière?
Oui, aussi, tout à fait. Ils adorent réciter Molière et ça marche très très bien.
Christophe Maury, vous êtes d'accord sur, en tout cas, les thématiques? Christophe Chouvet a cité plusieurs thématiques, le rire, il y a eu plein de choses. Molière est complètement ancré dans notre temps?
Ah, complètement. Complètement. Vous savez, il disait que la comédie est là pour redresser les travers des hommes. Donc, en les désignant, en les montrant, en les mettant dans des situations absolument incroyables. Donc, au bout d'un moment, chaque caractère va bouillir pour sortir de cette situation. Sinon, ils ne vont pas s'en sortir. Mais chacun peut se reconnaître dans tous les personnages de Molière. Parce que, certes, les personnes qu'il désignait sont mortes, naturellement. Mais ces personnes-là, on les connaît toujours. Les médecins, le galimatia des médecins, il suffit de regarder certaines télévisions avec nos médecins aujourd'hui et la crise du Covid, ce sont les mêmes. Le Tartuffe, il n'y avait qu'à regarder le rapport Siaz, ce sont les mêmes. Les petits marquis, ben, vous allez traîner dans les ministères, vous avez les mêmes. Et on retrouve tous ces personnages aujourd'hui, et c'est ce qui fait la force. Et dans les thématiques fondamentales, la femme est très très importante chez Molière, parce que vous avez à la fois la femme qui arrive toujours à s'en sortir, qui est toujours au centre de la pièce, puisque la pièce est toujours un père tyrannique qui contrarie les amours de sa fille parce qu'il veut la marier à quelqu'un d'autre. C'est toujours ça. Orgon, Argan, Géronte, etc. Et la fille s'en sort bien. Et c'est le triomphe de la femme. Pourquoi il y a tant de cocus chez Molière ? Bon, une femme abandonnée, c'est triste, c'est une tragédie. Mais un homme abandonné, ça fait rire, c'est un cocu. Et on disait que Molière était fondamentalement jaloux. Il a écrit Don Garcia de Navarre ou Le Prince jaloux. En fait, pas du tout. Pourquoi il y a tant de cocus ? Parce que c'est la liberté de la femme.
Donc il était féministe, Molière ?
Totalement.
Et comment, où est-ce que vous situeriez Molière ? On parle de Molière aujourd'hui. Comment vous le situeriez dans le mouvement MeToo, par exemple, aujourd'hui ?
Alors là, il serait quand même très, très embêté. Limite police menottes prison, si vous voulez, parce que pour lui, le sexe, c'est la vie.
Vous diriez que c'est toujours adapté à nos sociétés, en tout cas ? Vous dites qu'il est actuel aujourd'hui, il l'a déjà été. Je voudrais juste, sur ce point-là, vous livrer ce qu'écrivait Martial Poisson, commissaire de l'exposition Molière, la fabrique d'une gloire nationale. Il a dit « Chaque époque a réinventé Molière ». Donc vous avez parlé de Molière aujourd'hui. Au XIXe siècle, dit-il, il devient l'incarnation symbolique de l'esprit français. Il prend une dimension tout à fait nationale. Et aujourd'hui, Molière, affirme toujours Martial Poisson, prend la dimension d'auteur classique par excellence. On voit en lui une sorte de condensé de toutes les possibilités de la langue française et en même temps, par les thématiques qu'il a abordées, son théâtre porte toujours une conscience politique très forte.
J'aime pas le mot politique parce que Molière n'est pas un militant. C'est pas un militant, c'est pas un sociologue, c'est un homme de théâtre profondément et qui va transformer la comédie qui était le genre en dessous de la tragédie qui était le genre noble, et là je parle devant le professeur de Yale, qui était le genre noble, et la comédie va prendre véritablement ses lettres de noblesse avec Molière. Ça avait déjà commencé avec Corneille et les comédies de Corneille, comme Le Menteur ou La Galerie du Palais.
Christophe Chauvet, je vous ai vu onduler de la tête quand on a parlé de politique et que Christophe Maury a rejeté ce mot politique concernant Molière.
Non, je suis tout à fait d'accord avec Christophe Maury, mais simplement, Molière, c'est aussi quelqu'un qui est à la solde du pouvoir et qui travaille pour le pouvoir et puis qui donne son genre noble à la comédie. Mais ce qui est frappant, et pour revenir à ce que vous disiez de Martial Poisson, c'est-à-dire que, oui, en même temps, il donne ses lettres de noblesse à la comédie, et en même temps, il n'y a pas d'auteur qui travaille mieux l'actualité immédiate que Molière. C'est-à-dire qu'en soi, oui, c'est des comédies qui restent aujourd'hui, mais c'est des comédies qui travaillent avec une actualité immédiate qui, les contemporains disent, jamais homme ne sait si bien se servir de l'occasion. On n'a pas quelqu'un qui, un auteur qui prend une plume en se disant je vais faire des œuvres pour l'éternité, c'est l'inverse. Le coup des précieuses ridicules, par exemple, c'est l'idée de prendre l'actualité littéraire, poétique, etc., immédiate, et de la mettre en pièce, d'en faire une comédie immédiate pour l'actualité immédiate. Et ça, c'est intéressant qu'un auteur aussi ancré dans son monde immédiat, c'est ce qu'on montre notamment dans l'Atlas Molière, en fait, devienne ensuite un classique, mais c'est une transformation tardive. Et de même pour la politique, c'est-à-dire qu'il y a des réactions au climat politique, il y a même de la propagande insérée dans ces pièces. On peut penser à la fin du Tartuffe, on peut penser au début de la Comtesse d'Escarbagnas, une pièce qu'on connaît moins bien. Toutes ces choses-là, on les comprend moins aujourd'hui, mais elles sont là, elles sont très présentes.
Alors, on va parler de l'Atlas Molière.
Qui paye ?
Christophe Maury, rapidement.
Voilà, c'est tout.
Ouais, il jouait effectivement devant le roi, il faut le rappeler. Il était proche du frère du roi. Alors, on va parler évidemment, notamment de l'Atlas Molière, c'est important. Et on va peut-être revenir sur la politique, mais j'aimerais qu'on recueille le témoignage de Mamadou Diol à présent, depuis Dakar. Je disais, vous allez présenter au mois d'avril Le médecin malgré lui, traduit en Wolof. On parle de la langue de Molière pour évoquer le français. Qu'est-ce que ça donne Molière en Wolof ?
Ce Molière-là est une bonne pédagogie pour nous d'apprendre le Wolof aussi, parce que c'est joué ou c'est écrit dans un français classique. Pour le faire en Wolof, nous avons dû traverser déjà trois pontons. D'abord du français classique au français moderne, et après, pour traverser encore, aller au Wolof ancien. Voilà, donc ce Molière-là nous permet de beaucoup plus creuser les phrases en Wolof et de mieux les comprendre dans un contexte nouveau.
Ça permet de davantage... Ça permet de davantage que les Sénégalais comprennent Molière. Est-ce que Molière est connu au Sénégal ?
Pas vraiment. Il est connu du monde de la scène théâtrale. On n'a pas Molière comme œuvre au programme, ni au lycée, ni dans les collèges, ou du moins on l'a plus. Mais quand même, il reste une figure emblématique donc de la représentation du théâtre au Sénégal comme étant une zone francophone aussi.
Nos deux invités, vous l'avez entendu, sont d'accord sur le fait que Molière est aujourd'hui complètement ancré dans notre société française d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire pareil du Sénégal ?
Bien entendu, si l'on se réfère aux thématiques qui sont jouées dans Médecins malgré lui, par exemple, quoi, les violences sur les femmes, le mariage forcé, la corruption, la médicalisation outrancière, les questions qui sont liées à la médecine. Je disais tantôt que cette année et l'année dernière, pendant l'ère du coronavirus, tout le monde était médecin malgré lui. Ce qui fait que ces thématiques-là qui sont relatées nous sont encore actuelles. Ce sont des phénomènes de société chez nous. Ça fait 400, ça fait beaucoup, au moins plusieurs siècles, quoi, que cela a été joué en France par Molière. Et mais ces thèmes-là, malheureusement, nous sont encore. Sont encore avec nous.
Des thèmes qui sont toujours d'actualité. Christophe Maury, qu'est-ce que ça vous inspire, Molière en Wolof ?
Vous savez, je crois que c'est Tolstoï qui disait « Parle de ton village, tu toucheras l'universel ». Ben, voilà. Molière, en Wolof, forcément, on va toucher l'universel. Parce que les comédiens vont parler d'eux-mêmes, puisque ça sera la voix très profonde qui viendra d'eux-mêmes sur le texte de Molière. Je trouve que c'est formidable.
Molière peut s'exporter partout aujourd'hui, en 2022 ?
Quand c'est bien fait, oui.
Mais comment vous expliquez que Molière soit autant joué aujourd'hui ?
Parce qu'il parle, je vous ai dit, de tout avec une grande liberté. En plus, il écrit pas... il écrit une espèce de chorégraphie verbale. Ça bouge tout le temps. Vous voyez, par exemple, dans l'école des femmes, à un moment, Arnold dit « montez là-haut ». Enfin, « montez là-haut », excusez-moi, mais ça ne se dit pas. Sauf que c'est vachement intelligent sur le plan scénique. Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre une didascalie. On fait « montez là-haut ». Vous voyez, et donc c'est vraiment un texte écrit pour le comédien. Et puis alors, quand vous voyez sur l'éducation, on parlait des femmes et des filles, l'éducation des filles, écoutez-moi ça, il y en a juste pour six vers.
Allez-y.
Mais
allez-y.
Je tiens sans cesse qu'il nous faut en riant instruire la jeunesse, reprendre ses défauts avec grande douceur, et du nom de vertu, ne lui point faire peur. Mes soins pour Léonore ont suivi ses maximes, des moindres libertés, je n'ai point fait des crimes. À ses jeunes désirs, j'ai toujours consenti. Et je ne m'en suis point, grâce au ciel, repenti. J'ai souffert qu'elle ait vu les belles compagnies, les divertissements, les bals, les comédies. Ce sont choses pour moi que je tiens de tout temps fort propres à former l'esprit des jeunes gens.
Ça vous inspire quoi ?
Voilà, c'est ça l'éducation. Il faut toujours reprendre en riant. Il nous faut en riant instruire la jeunesse.
Ah, Christophe Chouvet, la transition est toute faite. Vous qui enseignez à la littérature française, vous êtes d'accord ?
Je suis absolument d'accord avec ça. Et je veux dire, il y a beaucoup de ce système de valeurs qui est mis en place dans Molière, hein, parce que les vers que vient de citer Christophe Maury, ils sont opposés à un modèle contraire qui est celui du barbon qui tient en laisse, vraiment en laisse, hein, sa jeune épouse. Et là, on a un contre-modèle, un modèle moderne qui ressemble encore à bien des égards à ce qu'on estime être nos idéaux aujourd'hui, que ce soit en termes d'éducation ou que ce soit en termes de rapport à l'autre en général dans la société. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place dans ce XVIIe siècle. C'est pour ça que Molière est aussi actuel. Encore, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en place dans notre société, encore une fois, que ce soit un système de valeurs, que ce soit un commerce du théâtre aussi par Molière, qui sont encore extrêmement parlants pour nous aujourd'hui.
Alors, est-ce que vous pouvez donner des exemples ? Parce que c'est intéressant dans notamment l'Atlas Molière, et ça renvoie à ce que vous venez de dire, vous décrivez un Molière entrepreneur, publicitaire même, ça semble particulièrement actuel, ça l'était tout autant il y a 400 ans ?
C'était vraiment nouveau il y a 400 ans, donc c'est ce qui se passe. Je vous donne un exemple avec l'école des femmes. Molière lance l'école des femmes, la pièce est bonne, ça fonctionne assez bien parce que Molière commence à être connu, et puis rapidement, une fois que la nouveauté est passée, les spectateurs, spectatrices vont dans les les autres salles de théâtre parisiens. On est dans un Paris qui a déjà des salles de théâtre fixes, ce qui est super intéressant d'ailleurs. Et à ce moment-là, Molière se dit, la seule manière de faire réussir ma pièce, de relancer ma pièce, c'est de créer la querelle, c'est de créer le buzz. Et là, il crée cette pièce qui s'appelle « La critique de l'école des femmes », dans laquelle il met en scène des spectateurs, spectatrices fictives qui racontent ou qui critiquent la pièce de Molière. Et donc, on fait le buzz, on crée la critique, on crée la querelle, on crée la controverse. Et qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où la critique de l'école des femmes est jouée, eh bien la pièce revient au devant de la scène et fait les gorges chaudes de la capitale. À ce moment-là, il n'y a pas seulement Molière qui crée la querelle, il y a toute une série d'auteurs là autour et d'autrices qui commencent à en parler aussi parce que c'est une occasion de se faire de la publicité. Et si on croit que Molière, par exemple, est cocu et qu'on a longtemps entretenu ce mythe, c'est à cause de ce moment-là, c'est parce qu'à ce moment-là, on commence à avoir les articles de presse à scandale sur Molière, là aussi c'est extrêmement moderne, hein, de presse à scandale qui disent oui, alors en fait, si Molière écrit sur les cocus, c'est parce qu'il est cocu. Il n'y a aucune base, mais c'est comme Closer ou c'est comme VSD ou je ne sais pas quoi. Hein. Ça, il faut trouver de quoi faire mousser l'affaire. Et à partir de là, et là, Molière transforme vraiment la manière dont fonctionne la littérature parce qu'après ça, il n'y a plus personne à Paris qui se dit je peux faire réussir ma pièce sans une querelle, sans un bon buzz, sans une bonne utilisation des médias. Mmh. Et le second XVIIe siècle, c'est l'âge des médias. Donc tous ces phénomènes qu'on connaît aujourd'hui, qu'on voit dans le street marketing, dans la promotion par bouche à oreille, etc., vous les retrouvez dans Molière et c'est vraiment la naissance de ces phénomènes.
Mamadou Diol, est-ce que vous êtes d'accord sur ce côté avant-gardiste de Molière? On en parle aujourd'hui 400 ans après sa naissance. Et quel regard vous avez depuis Dakar sur ce côté avant-gardiste? Est-ce que vous partagez déjà?
Parfaitement. Il y a un niveau extrêmement intéressant dans lequel nous nous retrouvons parfaitement avec Molière, c'est le théâtre artisanal, assez éloigné du théâtre conventionnel avec ses exigences sur le plan technique. Molière, c'est beaucoup plus simple que ça. Et à l'entame, on voit qu'on peut jouer ces pièces relativement partout. Ce que nous envisageons de faire, c'est de transposer ce Molière, faire quitter les salles classiques de théâtre pour les places publiques, pour l'arbre à palabre, le faire jouer en Wolof et de façon artisanale. Ce que l'on a, c'est dans nos sociétés de l'oralité, où tout le monde ne sait pas lire et écrire, apprendre les personnages de Molière relève beaucoup plus de l'artisanat que de la construction du personnage. Et ce qui fait que tous les personnages que Molière a présentés dans Médecin malgré lui sont des personnages qui exactement nous les avons en société. On a préféré ne pas du tout changer les noms des personnages, de garder Sganarelle, Martine, Valère et les autres, qu'ils gardent leur nom. Que nous, on les adapte dans l'artisanat, sur le plan costumes, accessoires et background, la façon africaine de dire les mots, on s'est rendu compte que même pour les proverbes, on a exactement les mêmes proverbes qui collent à chaque fois qu'on arrive à une intervention d'un personnage. On a exactement la même phraseologie, le même dicton en Wolof. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que c'est cette pièce-là qu'il nous fallait pour notre ouverture théâtrale.
Cette pièce, donc, Le médecin malgré lui, que vous allez monter au mois d'avril au Théâtre du Forum au Sénégal. C'est vraiment intéressant ce que vous venez de dire, parce que ça renvoie complètement à ce que vous disiez au début de cette émission, Christophe Maury, sur le fait que finalement, ça renvoyait complètement Molière aujourd'hui à nos sociétés. Vous l'avez dit pour la France. Mamadou Diel vient de le dire
pour
le Sénégal. Et vous avez entendu, il a répété plusieurs fois le mot artisanat, Mamadou Diel. Vous êtes d'accord? Théâtre artisanal contre théâtre conventionnel?
Non, moi je crois que c'est je crois que Molière rentre dans toutes les bouches, donc il passe sur toutes les scènes. Mais j'aimerais revenir sur les personnages. Il y a un personnage qui est créé par Molière, vraiment, c'est l'honnête homme. L'honnête homme, c'est Bérald dans le Malad imaginaire, c'est Cléante dans Tartuffe, c'est Philinte dans Le Misanthrope, etc. On peut en trouver dans presque chaque pièce. Et c'est le type, le verre à moitié vide, à moitié plein. Et c'est le type qui va toujours à la fois... si vous voulez, c'est le type qui va trouver l'équilibre. Mm-hmm. Voilà, l'équilibre. Devant la folie du tyran domestique, lui, il va arriver avec l'équilibre, avec le bon sens et avec un esprit qui va être un esprit extrêmement français. C'est pour ça qu'on va aussi parler de la langue de Molière quand on parle du français. C'est en pensant à cet équilibre formidable qu'est l'honnête homme. Et je crois que c'est le seul... Enfin, je parle sous votre autorité, monsieur le professeur, mais dans l'ensemble du théâtre du XVIIe, Molière est le seul à ériger l'honnête homme en personnage pivot de ses comédies.
En tout cas, il s'en sert comme révélateur. Pour montrer ce qui ne va pas. Hein. C'est soit le personnage de l'honnête homme, soit parfois aussi les domestiques, les servantes qui permettent de souligner. Je pense aux malades imaginaires. Voilà le moment où Toinette se permet de souligner et de dire à quel point faire des thèses ça ne sert à rien en médecine. Hein. Donc voilà, on a ces personnages qui servent de révélateurs et qui sont effectivement essentiels pour créer ce système de valeurs et qui fonctionne effectivement dans toute une série de qui fonctionne partout au fond.
On parlait d'artisanat à l'encontre de la convention. Est-ce que Molière nous rappelle que finalement on manque de satire aujourd'hui, lui qui avait justement cette satire acerbe?
Oui,
dans notre monde d'aujourd'hui.
C'est pas Coluche, hein.
Alors, qui veut répondre à cette question? Allez.
Le rire chez Molière est un rire à la fois d'élégance, de mélancolie et de stupeur. Mais ce n'est pas un rire à la Coluche, je veux dire, ou à la Desproges, ce n'est pas ce rire grinçant de Desproges. Ce n'est pas, c'est un comique, mais ce n'est pas un... un farceur.
Enfin, il a mis en, ça renvoie à ce qu'on disait, mais il a mis en scène l'irresponsabilité du pouvoir.
Oui.
C'est en ça que je pense à la satire.
Oui.
Et est-ce que ce thème aujourd'hui, puisqu'on parle de Molière aujourd'hui, dans le contexte de gestion de crise...
Il est irrévérencieux.
Il s'impose.
Ah oui, incontestablement, et surtout dans la gestion de crise. Enfin, vous savez, il y a 6 pièces qui traitent des médecins, vous les prenez tous les 6 et vous avez ce que vous pouvez répondre à certains qui apparaissent trop souvent sur les écrans de télévision.
Christophe Chouvet.
C'est absolument essentiel de voir à quel point on gère au fond une actualité complexe qui est celle du monde de Molière ou qui est la nôtre aujourd'hui, avec justement ce rire et cette manière d'adapter les choses. Il ne s'agit jamais de théâtre à thèse. Les pièces de Molière ne sont jamais des pièces à thèse, parce qu'on va faire des... D'ailleurs, on ne va pas au théâtre pour se prendre une leçon. On va au théâtre pour s'amuser, on va au théâtre pour rire, on va au théâtre pour s'émerveiller. Et ça, c'est ce que Molière a aussi parfaitement compris. Et donc, c'est jamais des pièces à thèse, c'est des pièces qui ridiculisent, mais toujours en utilisant intelligemment les personnages. Et ça, c'est des choses, c'est des schémas, encore une fois, qui se transposent, qui fonctionnent et qui permettent à toute société, pour la nôtre aujourd'hui ou pour celle de Molière, de fonctionner. Il y a peut-être là une universalité. C'est-à-dire, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette universalité, c'est pas on comprend le théâtre de Molière de la même manière que les spectateurs, spectatrices du XVIIe siècle le comprenaient. Pas du tout. En réalité, quand on voit Molière aujourd'hui, on rate, 90% des blagues, parce qu'elles font référence à des choses d'actualité. En revanche, ce qu'on comprend encore, c'est le schéma. Ce qu'on comprend encore, c'est cette mise en scène du ridicule, de l'absurde, de l'excès, etc. Et ça marche encore. Alors ensuite, c'est la magie de la mise en scène qui permet de rendre la pièce à nouveau compréhensible ou de l'actualiser, de la récupérer autrement.
Et il y a une autre valeur de Molière qui m'interroge aujourd'hui sur notre société, c'est la liberté. Il y a beaucoup d'artistes qui évoquent la liberté de Molière. Est-ce que c'est notamment ça qui le rend immortel et est-ce que ça nous fait dire qu'aujourd'hui, finalement, les artistes manquent de liberté? Christophe Maury.
Il y avait à l'époque la censure. Et Tartuffe va être censuré pendant 5 ans. L'évêque de Paris, Ardoine Perfix, excommunie toute personne allant voir Tartuffe. Je ne sais pas si vous voyez le niveau. Bon. Donc, il y a une censure. Aujourd'hui, il n'y a plus de censure. Mais il y a pire. Il y a l'autocensure. Parce qu'il ne faut pas parler de tel groupe, de telle identité, de tel groupe. Enfin, ce que nous explique très bien Blanche Gardin. Aujourd'hui, il y a une autocensure. Et c'est pire que la censure. Parce que la censure, on peut la contourner. L'autocensure, on ne peut rien créer.
Christophe Chouvet.
Ce qui est intéressant aussi avec la censure et Molière, c'est ce qu'on peut faire de la censure pour aller dans le sens de ce que vous dites, Christophe Maurice, c'est-à-dire que le Tartuffe, ça prend 5 ans à être autorisé, mais quand le Tartuffe est autorisé, c'est la plus grosse création de la troupe de Molière. Il n'y a aucune pièce qui fait un succès pareil. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que, bien sûr que Molière fait un pas de trop, quelque part, et ça va un tout petit peu trop loin, et donc le premier Tartuffe est censuré. Mais ensuite, il s'assure, tout en prenant des risques, comme on l'a très bien dit, mais il s'assure, dans cette censure, de se ménager justement cet espace, d'entretenir le buzz autour de cette censure. On voit, à partir du moment où le premier Tartuffe est interdit de jouer en public, il peut être joué en privé par ailleurs, mais interdit de jouer en public, on voit très bien que le mot Tartuffe commence à apparaître dans les journaux, alors que c'est un mot qu'on n'utilisait jamais avant. Là, il y a Molière qui travaille derrière pour entretenir le buzz jusqu'à ce qu'en 69, vraiment, ça explose. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose à comprendre, soit pour les artistes, mais soit aussi pour le paysage politique en général. C'est-à-dire que combien de politiciens, combien d'artistes se prétendent censurer, se prétendent ne pas être écoutés, qui est une excellente stratégie pour se positionner et pour être vu. Là aussi, il y a des schémas que Molière met en lumière.
Sur la langue de Molière, le français, c'est toujours la langue de Molière aujourd'hui, ou est-ce que la langue de Molière perd de sa vitalité ?
Alors,
Christophe Maury.
Je vais vous expliquer. L'école des femmes, scène 1, acte 1. Il y a un grand dialogue entre Arnolf et Chrysale. Et j'assiste à l'école des femmes, que je connais bien. J'y assiste un jour, c'était à l'Odéon précisément. Je n'ai rien compris de ce qu'il disait. Le même... joué par Pierre Santini et je ne sais plus quel était son partenaire.
Rien compris, c'est-à-dire ? Pourquoi vous n'avez pas compris ?
Je ne comprenais pas la langue.
D'accord.
Le verre était haché, je ne comprenais pas la langue.
Ok.
Quand Pierre Santini l'a joué au théâtre 14, c'était tellement évident, tellement naturel que l'on comprenait tout. Vous demandez à un enfant, enfin un gamin de 14 ans de lire l'École des femmes, je vous promets que c'est compliqué pour lui.
Donc c'est l'interprétation qu'on fait de Molière, qui fait la langue de Molière.
Ouais.
Christophe Chouet, vous êtes d'accord ?
Je suis tout à fait d'accord. Et par ailleurs, la langue de Molière, elle est relativement... pauvre, alors je mets d'énormes guillemets là, c'est-à-dire, j'entends, on est à un moment quand même de langue extrêmement codifiée, extrêmement réduite, extrêmement, voilà, c'est comme la langue de Racine, c'est pas un vocabulaire très, très étendu, c'est au contraire très très contrôlé et très, très normatif, justement. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de Molière, il y a des débats par rapport à la langue qui se posent, qui ne peuvent que rappeler les nôtres aujourd'hui, la novlangue, les anglicismes. Regardez les précieuses ridicules, qui utilisent des termes qui sont en réalité les termes à la mode dans les romans, qui sont en train de passer dans le langage courant, mais qu'une certaine frange de l'intelligentsia dit non, mais on n'a pas besoin de ces mots, qu'est-ce que c'est que ces adverbes ridicules qu'on compose. Mais voilà, Molière, la langue de Molière, elle nous rappelle aussi que la langue, elle est en constante évolution. Mmh. On le sait, n'empêche que c'est mis en scène directement dans son théâtre. Donc cette fameuse langue de Molière, elle est en évolution à l'époque de Molière. Comme elle est en évolution aujourd'hui.
Il y a une dernière question, il nous reste moins d'une minute, il y a une dernière question que j'aimerais vous poser. Comment est-ce que Molière, né il y a 400 ans, jugerait notre société aujourd'hui, selon vous ? Allez, qui veut répondre ? Ne vous pressez pas.
Je crois qu'il en
Christophe
rirait.
Christophe Maury, oui ? Et il en rirait ou il en pleurerait ?
Les deux.
D'accord.
Il en rirait et il en serait désespéré.
Mmh. Et il aurait de quoi faire
Christophe
des spectacles.
Christophe Chouvet.
Il aurait de quoi en faire des spectacles. Ça, c'est sûr qu'il ne manquerait pas de travail et d'inspiration.
Eh bien, merci Christophe Chouvet. Vous enseignez la littérature française à l'université de Yale aux États-Unis. Vous êtes spécialiste de la littérature du XVIIe siècle, co-auteur du livre L'Atlas Molière aux éditions Les Arènes. Merci Christophe Maury, auteur d'une biographie de Molière aux éditions Gallimard, collection Follow Biographie. Et je précise que après-demain, mercredi, vous présenterez au théâtre du Nord-Ouest parisien une conférence théâtralisée sur votre nouveau livre, Marquise, la sensuelle comédienne de Molière aux éditions Ballant. Merci Mamadou Diol. En direct de Dakar, metteur en scène et qui va présenter au mois d'avril Le médecin malgré lui, traduit en Wolof au théâtre du Forum au Sénégal. Ah, il faudra lui demander. Et on n'a pas assez de temps pour le demander hors antenne. Merci à Florence Pons à la préparation de ce débat. Jean-Philippe Thuré à la réalisation. Témoin d'actu.